RFI Midi.
Merci d'écouter RFI. Il est midi en temps universel, 14h ici à Paris. L'heure du journal. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Kim y gagne quoi ? On revient dans un petit instant sur l'accord trouvé entre les États-Unis et l'Ukraine. Après des mois et des mois de bras de fer, ce partenariat donne accès à Washington aux ressources naturelles ukrainiennes. Et il est présenté comme une bonne nouvelle par les deux parties. Le Cachemire se prépare au pire alors que l'Inde et le Pakistan sont à couteau tiré. Des échanges de tirs ont encore éclaté à la frontière. Et côté pakistanais, les écoles coraniques ont fermé pour 10 jours.
RFI Midi.
Travailleuses, travailleurs mobilisés un peu partout dans le monde en ce 1er mai. En France, les syndicats défilent en ordre dispersé. Au Rassemblement national à l'extrême droite, Marine Le Pen et Jordan Bardella, eux, affichent leur unité à Narbonne. Et puis Léon Marchand se remet dans le bain, le nageur français, révélation des JO de Paris, de retour pour une compétition aux États-Unis avec de nouveaux défis. Le journal des sports, c'est dans un petit quart d'heure.
Il y a eu plusieurs moutures, des négociations serrées et finalement les États-Unis et l'Ukraine se sont donc mis d'accord pour un partenariat sur les ressources naturelles.
L'Ukraine en a beaucoup, hein, des ressources, manganèse, titane, graphite ou encore lithium. Il y a du flou encore dans les contours de ce partenariat, mais pour résumer, il prévoit la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine et donne aux États-Unis un accès privilégié aux minerais. Lors de la signature à Washington, les deux parties se sont dit satisfaites. Et à cette occasion, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a adressé un message à la Russie.
L'accord conclu aujourd'hui indique clairement aux dirigeants russes que l'administration Trump s'engage à long terme en faveur d'un processus de paix centré sur une Ukraine libre, souveraine et prospère. Il est temps que cette guerre cruelle et insensée prenne fin. Les massacres doivent cesser et les États-Unis, comme le gouvernement ukrainien, sont impatients de rendre rapidement opérationnel ce partenariat économique historique pour les peuples ukrainiens et américains.
Voilà, le secrétaire américain au Trésor. Côté ukrainien, le gouvernement à Kiev parle d'un bel accord, un accord équitable, Emmanuel Chaz.
Il doit encore être ratifié par le Parlement ukrainien, mais après des mois de tractations houleuses, cet accord est présenté comme une bonne nouvelle par le gouvernement ukrainien. Le Premier ministre Denis Shmyhal se félicite d'attirer des ressources pour la reconstruction et la croissance économique du pays grâce au fonds d'investissement qu'il met en place et rassure en soulignant que l'Ukraine conserve le contrôle sur ses ressources naturelles et infrastructures et que cet accord ne sera pas un obstacle au processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. La ministre de l'économie et vice-première ministre Yulia Sviridenko, qui a signé cet accord à Washington, précise également que l'Ukraine financera ce fonds à hauteur de 50% et exclusivement à partir de revenus générés par de nouvelles licences d'exploitation de ses ressources et que les entreprises publiques telles qu'Energoatom ou Ukrnafta resteraient sous contrôle ukrainien. Des questions persistent sur les garanties de sécurité que l'Ukraine espérait obtenir. Aucun élément concret à ce sujet n'est inclus dans cet accord qui évoque seulement un alignement stratégique des deux pays à long terme et promet le soutien américain à la sécurité, prospérité et reconstruction de l'Ukraine, mais sans préciser de quelle façon. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Et nous reparlerons de cet accord dans une dizaine de minutes avec notre invitée, la journaliste et politiste ukrainienne Tetiana Ogarkova.
Parallèlement sur le terrain, deux personnes ont été tuées dans une attaque russe contre Odessa dans le sud de l'Ukraine. Et puis une frappe ukrainienne a visé ce jeudi une localité contrôlée par les Russes dans la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine. Les autorités locales font état de 7 tués. Dans cette région de Kherson, comme dans les autres territoires annexés par la force par la Russie depuis 2022, Moscou accélère sa politique de russification des populations. Notre correspondante Anissa El-Jabril a constaté. Alors, précision pour la presse, l'entrée dans ce territoire de Kherson annexé se fait via une accréditation spéciale et les interviews que vous allez entendre dans ce reportage ont toutes été réalisées en présence d'un membre du service de presse de l'administration installée par la Russie. ceci étant dit, c'est parti.
Loi martiale, entrée et sortie du territoire contrôlé avec foule systématique des bagages, couvre-feu strict de 22h à 6h. La partie de la région de Kherson sous administration russe vit toujours à l'heure de la guerre. Ici, les armes parlent encore, mais pas que.
Jusqu'à aujourd'hui encore, nous menons une guerre idéologique. Et dans certains endroits, nous menons très activement une guerre de l'information, car il est très clair qu'il y a encore ici des opposants, des pro-ukrainiens.
Oksana Kalashnikova est chef du département de politique intérieure au sein de l'administration installée par la Russie. Elle est aussi la responsable du comité d'organisation de la célébration du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Cette année, nous attendons beaucoup de monde. L'année dernière, environ 15 000 personnes ont participé aux événements consacrés à la célébration du 9 mai. Ce chiffre ne concerne que la ville de Genichesk. Et cette année, je pense que nous allons largement battre ce record.
Le Kremlin s'attache depuis 2022 à faire un parallèle historique entre sa guerre en Ukraine et la Seconde Guerre mondiale. Adhérer à sa lecture est un des tests de loyauté exigés par le pouvoir. L'autre est l'acquisition de la citoyenneté russe. Oksana Kalashnikova vante les chiffres locaux en matière de passeportisation.
En avril de cette année, 16 000 passeports russes ont été délivrés au cours du seul premier trimestre. Je pense que nous approchons le chiffre de 300 000. Cela représente la quasi-totalité de la population adulte de la région de Kherson. Ce travail a été récemment intensifié et nous constatons une dynamique positive, car c'est impossible de refuser la citoyenneté d'un État qui fait tant pour vous.
Pour expliquer notamment cet afflux de demandes, l'administration locale met en avant ses efforts pour reconstruire routes et bâtiments. Les habitants des territoires annexés doivent prendre un passeport russe d'ici au 10 septembre prochain. Au-delà, ils seront considérés comme des migrants illégaux et devront partir. Anissel Jabri, Genichensk, RFI.
En Russie, comme dans de très nombreux pays, ce jeudi 1er mai est un jour férié, jour de fête du travail.
Et souvent marqué par des mobilisations syndicales, des rassemblements, des défilés. Anselme Kohovia-Moussoum, secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale internationale pour la région Afrique, sera notre invité dans Afrique Midi tout à l'heure. En Turquie, la ville d'Istanbul là, a été verrouillée sur fond de contestation après l'arrestation du maire de la ville. Et en ce 1er mai, plus de 400 personnes ont été arrêtées selon une association d'avocats. Pendant ce temps-là, en France, plus de 250 défilés sont organisés aujourd'hui par les syndicats. Bonjour Anne Verdaguer.
Bonjour Charlotte.
On vous retrouve dans le cortège parisien, sous le soleil, vous êtes place d'Italie. Le cortège vient de s'élancer, c'est ça, une mobilisation en ordre dispersé cette année?
Oui, la CFDT et l'UNSA faisaient bande à part ce matin avec une table ronde en plein air et en plein centre de Paris pour que syndiqués et passants participent à un débat autour des conditions de travail et des questions les plus saillantes de ce 1er mai. Abrogation de la réforme des retraites, hausse des salaires, préservation de l'emploi et arrêt des chèques en blanc pour les entreprises. Sur le fond, beaucoup de thématiques communes avec l'autre défilé sur lequel nous nous trouvons dans une ambiance très bon enfant, vous l'entendez, place d'Italie. C'est le rassemblement organisé par la CGT solidaire et FSU. La question des retraites est là aussi très prégnante, avec une dimension internationale pour cette manifestation, lors de laquelle les syndicats dénoncent une trumpisation de la société. Cela fait 3 mois qu'on parle de guerre, d'insécurité, et les questions sociales sont occultées, dit la secrétaire générale de la CGT. Ni guerre commerciale, ni libre-échange, ajoute Sophie Bonnet, qui, avec la Confédération européenne des syndicats présente également dans ce cortège, réclame un moratoire sur les licenciements, sur fond d'annonces de coupes dans les effectifs, notamment à ArcelorMittal, préserver notre industrie, nos emplois, mais aussi être vigilant sur les coupes budgétaires à venir. Nous sommes contre l'économie de guerre et la guerre économique, a dit pour conclure le responsable Force Ouvrière, qui est lui aussi présent en tête de cette manifestation.
Anne Verdaguer pour cette mobilisation parisienne avec Benoît Gouthard pour les moyens techniques.
Autre tradition du 1er mai en France, un rassemblement de l'extrême droite.
Et depuis 3 ans maintenant, c'est en dehors de la capitale, hors de Paris. Le RN, le Rassemblement National, tient un meeting aujourd'hui à Narbonne, dans le sud, et dans un contexte bien particulier après la condamnation en justice de Marine Le Pen, qui pourrait lui barrer la route de la présidentielle 2027, Raphaël Del Volvé.
Initialement, le parti à la flamme voulait mettre le cap sur les municipales de l'an prochain, dans un département où il détient 3 députés sur 3. Mais les cadres du parti préfèrent parler d'un nouveau rendez-vous, de la campagne permanente lancée après les législatives perdues de 2024 et censée mener le RN à l'Élysée. Mais voilà, la candidature de Marine Le Pen, fragilisée par sa condamnation fin mars, chamboule tout, et la récente sortie de Jordan Bardella dans la presse, qui, même avec prudence, affirme qu'il sera candidat en cas d'empêchement de son mentor, jette un trouble supplémentaire. Difficile de surcroît de clarifier dès aujourd'hui une situation suspendue au procès en appel dont l'issue est attendue à l'été 2026. Alors bien malin, qui pourra dire quel thème sera mis en avant? Comment le duo jusque-là organisé en ticket présidence primature entretiendra l'espoir d'un parti en proie au doute depuis un mois? La foule ne devrait pas être clairsemée comme lors du rassemblement de soutien à Marine Le Pen organisé à la hâte quelques jours après sa condamnation. Les 5000 places de la salle du meeting devraient être facilement remplies dans une région où le parti progresse d'année en année.
Le meeting devrait débuter là à 14h30 à Narbonne.
RFI. Le Monde à midi.
L'inquiétude de la communauté druze en Syrie, cette minorité issue de l'islam chiite, après une série de violences à caractère confessionnel. Au moins 73 personnes ont été tuées ces deux derniers jours, selon l'Observatoire des droits de l'homme, dans des affrontements avec l'Observatoire syrien des droits de l'homme, dans des affrontements avec des groupes armés liés aux nouvelles autorités. La France appelle les acteurs syriens et régionaux, notamment Israël, à rétablir le calme. L'État hébreu qui était intervenu hier en menant plusieurs frappes.
Israël, où les pompiers luttent toujours contre les flammes dans la région de Jérusalem.
Oui, là, ces dernières heures, plusieurs routes ont pu rouvrir, mais les incendies ne sont pas complètement maîtrisés. 6 zones sont toujours en feu. Plusieurs localités ont dû être évacuées. Et les enquêteurs privilégient la piste criminelle pour expliquer ces départs de feu. 18 personnes ont été arrêtées. Un millier d'écoles coraniques fermées au Cachemire pakistanais et pour 10 jours, annonce en pleine tension entre l'Inde et le Pakistan, la tension qui monte encore un peu plus chaque jour entre les deux voisins depuis l'attaque meurtrière au Cachemire indien la semaine dernière. Et les Cachemiris se préparent au pire, Yelena Tomic.
Deux jours après que le premier ministre indien Narendra Modi ait donné carte blanche à ses forces pour frapper le Pakistan, le Cachemire pakistanais anticipe la riposte. Les autorités locales ont annoncé la fermeture de plus de 1000 écoles coraniques pendant 10 jours. Aux abords de la ligne de contrôle où des tirs transfrontaliers résonnent depuis maintenant une semaine, la population a commencé à stocker des vivres et à nettoyer les abris de fortune et les bunkers construits lors des conflits précédents. Des exercices d'évacuation et de premiers secours sont organisés dans les écoles pour se tenir prêts à intervenir en cas d'urgence. Malgré les appels à la retenue, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a exhorté les deux parties à désamorcer la crise et à éviter l'escalade. Les tensions persistent. Le ministère indien de la Défense a accusé l'armée pakistanaise d'avoir violé pour la 7e fois consécutive le cessez-le-feu le long de la ligne de contrôle.
Elle était la doyenne de l'humanité. À 116 ans, la religieuse brésilienne Ina Canabarro Lucas est décédée dans sa congrégation. La nouvelle doyenne est désormais anglaise. Elle s'appelle Ethel Caterham, âgée de 115 ans et 252 jours. Interrogée l'an dernier sur le secret de cette longévité, elle avait dit « Je ne me dispute jamais avec personne. J'écoute et je fais ce que j'aime, à méditer. »
Ça a été un grand succès cinéma de l'année 2024. Un petit truc en plus, le film français est à petit budget avec cartonné avec plus de 11 millions de spectateurs.
Une comédie de l'humoriste et réalisateur Artus, tournée avec des personnes en situation de handicap dans un gîte à la campagne. Eh bien, l'histoire ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, Artus prolonge en quelque sorte sa comédie avec sa fondation. Il veut ouvrir des sites de vacances pour personnes handicapées, Isabelle Chenu.
L'appel aux dons de la fondation Artus est lancé. Objectif, bâtir ou réhabiliter des maisons de vacances inclusives ouverte aux personnes handicapées mentales atteintes de trisomie ou d'autisme. Des lieux de qualité afin d'arrêter de faire rimer le médicalisé avec le glauque, explique Artus. C'était le rêve de l'acteur et réalisateur qui porte cette cause depuis longtemps et qui, avec son film Un petit truc en plus, a raflé la mise en salle. Son histoire d'un duo de braqueurs en cavale qui décide de se faire passer pour un pensionnaire et son éducateur dans une colonie de vacances pour personnes en situation de handicap a su toucher de façon drôle étendre le public. Ce succès et cette mise en lumière lui a permis de monter son projet. La fondation a reçu une première mise de fonds de 300 000 euros, abondée à part égale par Artus, les producteurs et les distributeurs du film. Le site internet de la fondation Un Petit Truc en Plus est hébergé sous l'égide de la fondation Personnage, créée par un autre acteur populaire, Lino Ventura, en 1966, qui avait lui-même une fille atteinte de handicap.
Et Artus sera l'an prochain le premier humoriste à remplir la grande salle de la Défense Arena à Paris, deux soirs de suite, presque 14h15, ici à Paris. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Charlotte Hidrac. L'actualité sportive maintenant. Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour Anne.
Avec du football d'abord, pas de vainqueur mais beaucoup de spectacles hier soir dans la seconde demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. 3 buts partout et certains d'entre eux qui marqueront la saison.
Ah oui, les virtuoses du ballon rond s'en sont donnés à cœur joie au stade de Montjuïc. Le jeune prodige du Barça, Lamine Yamal, auteur d'un beau numéro en solo pour amener les Catalans dans la partie alors qu'ils étaient menés 2-0 au bout de 20 minutes. Un ciseau de Denzel Dumfries, la frappe magistrale en seconde période de Rafinha, involontairement accompagné dans les filets par le dos de Yann Sommer. Mais c'est Marcus Thuram qui avait donné le ton de la soirée dès la première minute par sa talonnade qui a scotché la défense barcelonaise. Une inspiration géniale que l'attaquant international des Bleus décrypte au micro de Canal+.
On a bien commencé le match, on savait qu'il tenait la ligne haute. Donc on a réussi à trouver Denzel Dumfries sur le côté, lancé, il a centré, je pense que le défenseur il glisse. Et après le seul moyen pour moi de la mettre dans les buts c'est en talonnant et donc ça a marché. On en sort satisfait, on en ressort très fatigué. Mais on sait que c'est entre guillemets que la première mi-temps parce qu'on a encore un match la semaine prochaine à la maison devant nos supporters. Et j'espère que ce sera un grand match.
Ah ben nous aussi, on n'est pas inquiets. En tout cas, on espère le même spectacle. Inter-Barça, mardi 6, donc, avant PSG-Arsenal, à suivre en intégralité sur RFI le lendemain.
Fin de la semaine européenne, ce soir, avec les demi-finales allées de la Ligue Europa cette fois.
Et notamment deux clubs anglais en lice, chacun de leur côté, pour tenter de sauver une saison de Première Ligue totalement ratée. Tottenham accueille la grande surprise de la saison, l'équipe norvégienne de Bodo Glimt, tandis que Manchester United se déplace sur le terrain de l'Athletic Bilbao, le club basque qui s'est déjà retrouvé dans la dernière ligne droite d'une Ligue Europa sans jamais la gagner. C'est peut-être la bonne année. En tout cas, les Red Devils ne sont pas un obstacle insurmontable, estime l'attaquant de Bilbao, Nico Williams.
Je pense que ce sera un match très équilibré. Nos supporters vont être à fond derrière nous. Ils vont nous encourager dès la première minute et cela va nous aider à bien entrer dans la rencontre. Pour moi, il n'y a pas de favori. Manchester est une grande équipe avec des joueurs de niveau mondial qui peuvent jouer n'importe où, comme Bruno Fernandes. Depuis le début, nous, on a adopté un profil bas et je pense que c'est notre marque de fabrique à l'Athletic. On est très concentré, rempli d'espoir comme toute la ville et les supporters. On va tout donner et faire du mieux possible pour arriver en finale.
Nico Williams, Athletic Bilbao, Manchester United, comme Tottenham, Bodo Glimt, 19h, temps universel.
C'est le Français qui a triomphé lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Revoilà Léon Marchand dans les bassins pour une nouvelle saison avec de nouveaux objectifs.
Oui, le quadruple champion olympique de 22 ans replonge en compétition aujourd'hui aux États-Unis lors d'un meeting en Floride, l'occasion pour lui de s'aligner. Outre sur ses courses de quatre nages, sa spécialité, sur deux épreuves de nage libre, le 200 et le 400 mètres, où il n'a absolument aucun chrono de référence, mais désormais une grosse envie de briller aussi.
J'ai mis un focus sur le crawl depuis janvier. Je continue comme ça, je sais pas quand. Je vais vraiment faire un bon 400 ou un bon 200, mais ça arrivera un jour. J'ai jamais vraiment fait de crawl, je crois que mon meilleur temps, ouais, c'est 4.02. Après, chaque année, je change plein de choses. J'ai l'impression que si je refais la même chose, que ce soit à l'entraînement, que ce soit tous les jours... J'ai l'impression que je vais m'ennuyer, en fait, c'est pas le but, et que je vais pas nager plus vite. J'ai besoin de partir sur des nouvelles courses où j'ai aucun repère. Les premiers 400 mètres crawl, ça va pas être facile, mais ça va être les plus excitants parce que c'est tout nouveau. J'ai besoin de ça pour progresser, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort et de faire des choses que j'ai jamais fait auparavant.
Léon Marchand dans le bassin de Fort Lauderdale en Floride pour sa première course, le 400 mètres tout à l'heure, à partir de 16h temps universel, juste un petit peu auparavant. Double actualité en basket, c'est déjà fini pour les Lakers de Los Angeles. En playoff NBA, la franchise californienne a été éliminée dès le premier tour par les Minnesota Timberwolves. 4-1 dans la série et puis en Euroleague, Monaco a manqué l'occasion de se qualifier et dès hier soir pour le Final Four en perdant sur le parquet de Barcelone 189. Les joueurs de la principauté ne mènent plus que 2-1.
L'actualité sportive. Merci Christophe Diremzian.
RFI. Le Monde à midi.
Les États-Unis et l'Ukraine en parlaient depuis des mois. Ils ont signé un accord hier sur l'exploitation de minerais, de gaz et de pétrole ukrainiens, exploitation commune. Bonjour Tatiana Ogarkova.
Bonjour.
Journaliste, politiste, vous êtes responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Vous êtes en direct de Kiev. Cet accord, il est meilleur que celui qui avait été évoqué il y a quelques mois, moins défavorable à l'Ukraine. Comment est-il perçu par les Ukrainiens ?
Alors cet accord est effectivement est beaucoup plus favorable à l'Ukraine. Il y avait plusieurs inconvénients pour l'Ukraine qui ont été éliminés. Et donc la version que nous avons consultée il y a quelques heures seulement, cette version de 12 pages, elle franchit pas ce qu'on appelle les lignes rouges de l'Ukraine, telles que par exemple la reconnaissance de la dette américaine, etc. Et donc la réaction de la société ukrainienne, des experts aussi, nous avons déjà vu quelques réactions, ils sont plutôt favorables, mais prudentes aussi, parce que cet accord, visiblement, va être suivi de deux autres accords, ils sont trois à être déjà arrangés, mais il y a le seul qui était rendu public. Et donc, dans deux autres, il y aura des conditions évoquées, plus précisément comment est-ce que tout ceci va être géré.
Vous avez évoqué cette question de la dette. Hier encore, l'administration américaine a rappelé qu'elle avait donné beaucoup d'argent à l'Ukraine. Initialement, Donald Trump avait présenté ce projet comme un moyen de rembourser, entre guillemets, ce que les États-Unis avaient fourni pour soutenir l'effort de guerre. Kiev assure qu'il ne s'agit pas d'une compensation. On en est sûr ?
On en est sûr, puisque dans le texte de l'accord, il n'y a pas cette dette de 350 milliards, ni de 100 milliards d'ailleurs, ne figure pas. Donald Trump continue de dire qu'avec cet accord, les États-Unis pourront gagner au moins 350 milliards, mais on comprend, bon, il a tout intérêt de dire que cet accord que les États-Unis ont signé, il sera dans l'intérêt des États-Unis, parce que ça constitue aussi un point fort pour son programme. En fait, il vient de marquer ses 100 jours et donc il faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Et donc, voilà, mais dans le texte de l'accord, dans ces 12 pages, il ne fait pas mention, en fait, d'aucune dette. Donc, il s'agit de l'investissement et le point le plus important, le plus intéressant pour l'Ukraine, que, voilà, les investissements américains, ils peuvent arriver dans la forme des armements. C'est mentionné directement dans l'accord que les États-Unis peuvent contribuer pour ce fonds en fait d'investissement en forme des armements, tels par exemple les systèmes de la défense antiaérienne dont l'Ukraine évidemment a très besoin actuellement.
Donc les investissements américains, il y aura aussi des investissements ukrainiens puisque les deux pays doivent créer un fonds auquel ils participeront de manière égale. L'exploitation effective, ce ne sera que dans plusieurs années, si la guerre s'arrête et si l'Ukraine récupère les territoires qui sont occupés par la Russie. Qu'est-ce que ça a comme valeur aujourd'hui, un tel accord ?
La valeur principale de cet accord, c'est un rétablissement, même s'il soit très partiel en fait, de la confiance entre Kiev et Washington. Cette confiance qui était vraiment très remise en question après cette fameuse scène dans le cabinet Oval, après l'arrêt de l'aide militaire de la part des États-Unis, avec l'arrêt de renseignement. Donc tout ceci était vraiment au point très bas. Aujourd'hui, avec cet accord-là, donc il a cette signification tout d'abord politique, avant d'être économique et réelle, elle est politique parce qu'elle démontre une certaine baisse de tension entre Washington et Kiev, et c'est exactement de quoi l'Ukraine a besoin actuellement, puisque je tiens à rappeler, nous sommes toujours en guerre et la préoccupation majeure de la totalité de la population, c'est de comment faire de la sorte que de protéger l'Ukraine davantage et de ne pas perdre le partenariat aussi fragile que soit-il avec les États-Unis.
Donc un accord qui rassure après des tensions très fortes. Pourquoi, selon vous, est-ce que ça s'est débloqué maintenant ? Parce que ça fait longtemps qu'on en parle de cet accord.
En fait, les négociations étaient longues puisqu'il fallait voir tous les détails et la délégation ukrainienne était là à négocier et en essayant de tourner l'accord, donc cette version préalable de cet accord dans les intérêts de l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, on peut vraiment féliciter notre équipe qui ont fait le maximum possible parce que les premières versions de cet accord, elle était vraiment exploitatrice par rapport à l'Ukraine. Aujourd'hui, il n'y a pas tout cela. Et donc, on peut se féliciter d'avoir un accord qui servirait, qu'on espère, à quelque chose, mais au moins qui ne va pas nuire, en fait, ni à l'économie de l'Ukraine, ni à notre sécurité.
Alors, c'est un accord, vous l'avez dit, qui est d'abord là, aujourd'hui, politique, qui est aussi économique, une fois que l'exploration sera menée et que l'exploitation sera lancée dans plusieurs années. Dans cet accord, il n'y a pas de garantie de sécurité. Pourtant, on sait à quel point ça avait été demandé par Volodymyr Zelensky. Pourquoi ?
En fait, c'est vrai que c'était très nécessaire pour Volodymyr Zelensky, pour toute l'Ukraine, que d'avoir un contrepartie de cet accord signé des garanties de sécurité. Dans le texte aujourd'hui, donc le texte que nous avons déjà lu, malheureusement, il n'y a pas mention de garantie de sécurité. Voilà. Et donc, mais on espère justement que avec cette restauration d'une partielle de la confiance, on pourrait envisager d'autres accords qui nous apporteront plus de garanties de sécurité, qui restent évidemment la priorité numéro un de l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est bien de parler de la restauration de l'Ukraine, de la reconstruction de l'économie. Tout ceci est évidemment important, mais avant que tout ça soit possible, il faudrait que la guerre cesse et que l'Ukraine bénéficie d'une paix durable.
Mais ça, une garantie de sécurité, vous pensez que l'Ukraine peut l'obtenir encore de la part des États-Unis ?
C'est une grande question. Malheureusement, on n'a pas de réponse à cette question. Les derniers mouvements que nous avons vus, malheureusement, n'allaient pas dans ce sens. Nous voyons très bien que, malheureusement, cette nouvelle administration de Donald Trump, elle détient cette position, en tout cas pour aujourd'hui, une position isolationniste pour l'Ukraine, mais tout aussi bien pour l'Europe. Et donc, évidemment, c'est un point très inquiétant pour tout le monde, pour l'Europe, pour l'Ukraine également. Mais nous espérons qu'avec ces petits pas de restauration de confiance, sans doute, la ligne directrice va rentrer, en fait, dans cette idée de respect des alliances américaines transatlantiques et comprendre qu'en fait, ce qui se passe en Europe, c'est capital et c'est fondamental tout aussi bien pour les États-Unis.
Merci Tetiana Ogarkova d'avoir été en ligne avec nous. Journaliste, politiste, vous êtes responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Merci.
Merci beaucoup.
Reportage au Pérou. Dans le pays, au moins 3,5% de la population déclare avoir des ascendances africaines. Cela représente plus de 825 000 personnes. Conséquence d'un passé esclavagiste imposé par les colons espagnols à partir du XVIe siècle. Et si les Afro-Péruviens ont laissé une forte empreinte dans la culture du pays par leur danse, leur musique ou encore la gastronomie, la communauté reste toujours plus défavorisée que la moyenne. Elle se bat donc pour la reconnaissance de ses droits et ce combat ne cesse de se renforcer. Écoutez un extrait du grand reportage de Juliette Chénion. La nouvelle génération d'Afro-Péruviens donne de la voix.
Direction le Carmen et ses 400 habitants environ, presque tous afro-descendants, un village formé à l'origine par des esclaves marrons échappés des haciendas. L'association Ashanti intervient ici plusieurs fois par mois. Dans la salle des fêtes, sur la place du village, les adolescents noirs du Carmen apprennent à monter des projets. Objectif, former une nouvelle génération de leaders qui se bat pour ses droits et occupe la scène politique.
Alors on avait combien de groupes ?
Sur de grandes feuilles blanches, les jeunes écrivent au feutre de couleur leurs prochains défis.
La problématique qui nous a été attribuée, c'est la production et la consommation responsable. On a aussi pensé qu'on pourrait faire des ateliers de sensibilisation.
Ces projets, explique Macial, sont une manière de prendre confiance en soi et de s'affirmer.
C'est ma dernière année de lycée et j'aimerais devenir psychologue, travailler sur l'égalité des genres. Au début, je n'acceptais pas mes cheveux. Ça a été dur pour moi car ils sont frisés, donc j'ai commencé à les lisser. J'avais du mal à accepter que j'étais une personne de couleur et comment dire, j'ai eu du mal à accepter que l'on me voit comme différente. Même en vivant dans un endroit avec beaucoup d'afro-descendants, je manquais de connaissances, de savoir que j'étais égale aux autres, que j'appartenais à la communauté afro-péruvienne. Je suis afro-descendante et aujourd'hui, je me sens fière de cela. Je m'accepte, je m'estime et je m'aime aussi.
Macial souhaite aller à l'université, encore deux fois moins accessible aux jeunes noirs péruviens qu'au reste de la population, malgré des progrès ces 20 dernières années.
J'ai beaucoup appris avec Ashanti. J'ai appris à mieux m'exprimer et ça m'a donné confiance. Comment je me vois dans le futur ? Comme une fille qui impulse le changement.
pour Jorge Ramirez, sociologue de l'Université de San Marcos et animateur de l'atelier. Accompagner ces jeunes afro-péruviens est un travail de longue haleine.
C'est très compliqué, d'autant plus avec de jeunes afro-péruviens, car c'est une population qui a avant tout besoin de revenus pour survivre. Donc avoir des espaces comme cela pour penser la citoyenneté, c'est un vrai défi, mais ce n'est pas impossible.
Extrait du grand reportage à écouter ce soir à 19h40, temps universel.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.